Ah, très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, le dernier chapitre, le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Alors le chapitre 24 traite de la résurrection, un peu de Christ, mais on veut voir Jésus-Christ après la résurrection. Après la résurrection, et dans un texte que l'on connaît bien, les derniers versets, mais qui commence déjà à partir du verset 13, où il est question de deux hommes, et puis au verset 33, où Jésus retrouve ses disciples. Alors Luc chapitre 24, alors il y en a qui ne sont certainement pas familiers à ce texte, ces histoires. Donc nous allons lire entièrement, au moins déjà jusqu'au verset 32, puis on verra. Donc Luc chapitre 24 et au verset 13, on lit: voici ce même jour, les questions ici du jour de la résurrection, ce même jour, deux disciples allaient en ville nommée dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem, la crucifixion de Jésus-Christ et de tout cela. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent: « Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ? » Et comment les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils étaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvaient les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Voilà, jusqu'ici pour l'instant, la parole de Dieu, l'Écriture. Bien sûr, c'est un texte qui est très narratif, hein, raconte une histoire, Jésus, qui rencontre des hommes qui vont tout tristes, déçus peut-être, et qui ne le reconnaissent pas, et puis qui, au bout d'un moment, quand Jésus leur parle, ils rompent le pain, ils le reconnaissent. Et on peut remarquer que Jésus, il a rencontré des personnes après sa résurrection. Il y a eu les femmes, il y a eu les disciples, il y a eu ces deux hommes. Et on dit qu'il a rencontré aussi Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé aussi les démons. Et Luc a choisi certainement de raconter quelques épisodes, quelques rencontres seulement de Jésus avec des personnes. Ici, dans ce texte, on a deux personnes, mais un peu plus loin, si on lit au verset 33, on voit qu'il, verset 30, oui, c'est ça, 33, on voit que ces deux disciples, ils retournent vers Jérusalem et ils rencontrent qui ? Ils rencontrent les 11 disciples qui sont rassemblés dans une maison. Et Jésus, au moment où ils arrivent, il parle, commence à parler, la Bible dit que Jésus aussi apparaît au milieu d'eux. Donc il apparaît au milieu de ses disciples rassemblés. Mais ce que je voulais souligner ce soir en guise d'étude, c'est ce que Jésus fait avec ces personnes qu'il rencontre, particulièrement ces deux hommes, et puis aussi dans la maison avec les disciples. Si vous lisez au verset 44, les disciples sont là, un peu dans la pièce, effrayés, ils voient Jésus arriver, la Bible dit qu'ils pensent que c'est même un esprit, Jésus leur dit, mais un esprit n'a ni chair ni os, donnez-moi à manger, vous allez voir que je mange, etc. Et puis, au verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voici, vous êtes les témoins de ces choses. » Alors imaginez que vous ayez tous les pouvoirs de Jésus vous êtes à sa place et vous avez des personnes qui avaient une grande confiance en vous, qui espéraient même que vous seriez le libérateur, celui qui allait délivrer. Ils pensent que vous êtes mort, vous êtes ressuscité. Et puis vous devez leur parler. Que diriez-vous à ces personnes pour les encourager? C'est imaginer ce qu'on pourrait dire si de notre position d'homme, mais en imaginant voilà qu'on ait vécu toute cette expérience. Jésus, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a des choses qu'il ne fait pas, mais il y a une chose en particulier qu'il fait. Et c'est ça que je voudrais souligner. Ce soir, c'est qu'il montre l'importance des Écritures. Il montre l'importance des Écritures. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais combien de fois, alors on va regarder rapidement comme ça, à partir du verset, pour vous aider, à partir du verset, allez, on va dire à partir du verset 25, combien de fois est-il fait référence aux Écritures? Je vous laisse regarder rapidement. À partir du verset 25, vous les comptez jusqu'au verset 45. Alors, pour vous aider, vous allez voir du verset 25 à 32 et puis de 44 à 48. Comme ça vous permet d'aller plus vite. Combien de fois est-ce qu'il fait référence aux Écritures? Est-ce que vous avez trouvé? Vous allez en trouver plus que moi. Six fois, c'est ça? Quelqu'un a trouvé autre chose? Non? Six fois. Je crois que moi, j'ai compté six fois. Peut-être que je ne dis pas que j'ai bien compté, mais bon. Mais j'ai compté six fois. Verset 25, regardez au verset 25, il est question. Ô homme sans intelligence, long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc là, il est question des Écritures. Verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans la gloire, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on peut considérer ce verset-là comme tout. Et puis au verset 32, qu'est-ce qu'il dit ? Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? Et puis au verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, donc il parle de l'Écriture, dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Si on décortique ça, ça fait plus que six, mais on va dire, voilà, hein, globalement, il parle encore des Écritures ici. Au verset 45, il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et puis au verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et donc on voit ici, je crois que c'est marquant ici, que Jésus veut insister sur l'importance des Écritures. Il veut insister sur l'importance des Écritures. Si on veut avoir une relation véritable avec lui, si on veut avoir une rencontre véritable avec lui, il faut passer par les Écritures. La première chose qu'on peut voir, il souligne à ces hommes qui sont désespérés, le besoin de croire dans toute l'Écriture. Parce que le premier reproche qu'il fait ici, c'est quoi ? Au homme, on pourrait dire, en guise de reproche, au homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est intéressant de voir, Jésus ne dit pas qu'ils sont lents à croire ce qu'ont dit les femmes quand elles ont dit le tombeau était vide, on a vu des anges. Il raconte ça, mais Jésus ne dit pas, mais vous auriez dû croire ce qu'elles vous ont dit. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'ils sont lents à croire les évidences du tombeau vide, parce qu'il dit que les disciples sont partis, sont arrivés au tombeau, et ils ont vu que les choses étaient comme les femmes avaient raconté. Le tombeau était vide. Il ne leur dit pas, mais pourquoi n'avez-vous pas cru ces choses ? Il ne dit pas qu'ils sont lents à interpréter l'apparition des anges. Si un ange est venu, un ange a fait ceci, vous auriez dû comprendre cela. Il ne dit pas cela. Mais ce qu'il souligne, c'est vraiment cette lenteur qu'ils ont montrée à croire ce qui est dans toutes les Écritures, ici. Et donc verset 25, « Lent à sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Donc ce qu'il leur reproche, c'est l'attitude de cœur qui n'a pas mis foi dans tout. Ils ont mis foi dans une partie des Écritures. Quand ils disent, par exemple, « Nous pensions que c'était lui qui délivrerait Israël », c'est vrai, Jésus est le libérateur d'Israël. Il est celui qui était annoncé comme le libérateur d'Israël. Mais ils n'ont pas bien saisi dans quel sens ces choses allaient se faire, parce que, visiblement, dit Jésus, il n'y a pas eu une acceptation du cœur de tout ce que l'Écriture enseignait sur Jésus. Et donc, il dit ici que qu'il y a besoin pour celui qui veut saisir les choses de Christ, de croire à tout ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture est au-dessus de toutes les manifestations visibles ici. Jésus dit, le texte nous dit que leurs yeux, il y a une autre chose qui saute dans ce passage, il est beaucoup question de voir, on pourrait dire, et de comprendre. Au début, on voit des hommes avec des yeux qui sont empêchés. Vous voyez ça au verset 16, c'est ça ? Il dit, voilà, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et mais au verset 32, il dit, au verset 31, il dit quoi ? Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et quelque part, on a l'impression que tout le temps où Jésus a expliqué, là, il y avait comme quelque chose qui les empêchait de reconnaître de le reconnaître en tant que c'est le Seigneur ressuscité, parce que Jésus voulait insister sur autre chose. Et après, quand il a fini son enseignement, là, il pouvait le reconnaître. Mais une fois qu'il le reconnaît, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et puis quand il n'est plus là, qu'est-ce qui revient tout de suite à leur esprit? Qu'est-ce qu'ils disent? Il disparut de devant eux. Verset 32, il dit, « Mais ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'on l'avait vu? Lorsqu'on entendait sa voix? Non, lorsqu'il nous parlait de quoi? Et qu'il nous expliquait les Écritures. » Et c'est certainement ce que Jésus voulait faire ici, c'est-à-dire focaliser leurs pensées sur l'importance des Écritures. C'est l'Écriture expliquée qui leur a donné cette flamme, ce cœur brûlant. Et quand ils reconnaissent Jésus, il disparaît. C'est comme pour dire, c'est pas le fait de voir avec les yeux le Christ ressuscité qui est quelque chose. C'est le fait de le voir à travers ce que la Bible, la parole dit ici. Et cette Bible dont il est question ici, c'est quoi? C'est Moïse et les prophètes. Et puis les psaumes aussi, il le dit au verset 44. Donc c'est pas Matthieu, Marc, Luc, ça n'existe pas à ce moment-là. Donc c'est tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et l'explication par Jésus de ce qui se trouve de l'Ancien Testament et qui le concerne a suffi à réchauffer le cœur de ces personnes-là. Et donc Jésus montre ici vraiment l'importance de croire à tout ce que, le besoin que nous avons, de croire à tout ce que l'Écriture dit, même si les yeux ne voient pas plus de choses que cela. Souvenez-vous de l'homme riche et Lazare, hein, dans Luc chapitre 16, vous vous souvenez que cet homme qui est en proie à la souffrance et à la douleur, qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Il dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il parle à mes frères, parce que s'il voit quelqu'un ressuscité des morts, eh bien, ils vont croire. Et la Bible, vous connaissez bien la réponse d'Abraham. Il dit, Abraham dit, même si ils ont Moïse et les prophètes. Exactement ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes lents à croire Moïse et les prophètes. Et il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoute. Et puis cet homme dit, non, mais s'il voit quelqu'un ressusciter des morts, s'il voit un miracle, ça va être bien. Et là, ils vont pouvoir croire. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et c'est ça qui est intéressant quand on voit la rencontre de Jésus avec ces personnes ici. Il n'insiste pas sur sa résurrection, ou très peu, avec les disciples, à un moment donné, quand au verset 37, ils sont pris d'épouvante parce qu'ils pensaient que c'était un esprit qu'ils voyaient. Hein? Et Jésus dit, non, un esprit n'a ni chair ni os. Hein? Entre guillemets, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais en passant, il y a des gens parfois qui disent, oui, moi j'ai vu un esprit, je t'assure, le Seigneur m'a montré un esprit, j'ai vu un esprit, etc. Bon, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc si vous voyez quelque chose, c'est que ce n'est pas un esprit. C'est un peu ce qu'il est en train de dire ici. Hein. Et donc il dit, donnez-moi à manger, etc. Mais une fois qu'il lui présente et qu'il mange, il passe tout de suite à autre chose. Verset 44, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit. Et il revient tout de suite encore à l'Écriture. Parce que pour lui, il montre que c'est un... Nous avons un besoin profond de croire dans tout ce que l'Écriture dit, et particulièrement de tout ce que l'Écriture dit de Christ. Accepter et croire toute l'Écriture, tout ce qu'ont dit les prophètes. Hein, on l'a dit, ces hommes n'avaient pas compris, avaient compris une partie, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait que le Christ souffre, il dit, et qu'il rentre après dans la gloire. Et cela montre que toute l'Écriture concerne Christ. Toute l'Écriture concerne Christ. De Moïse jusqu'à Malachie pour cette époque, et puis maintenant on peut dire de Moïse jusqu'à Apocalypse, hein, jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Et on peut avoir parfois tendance à, à passer vite sur l'Ancien Testament. On dit, oh, c'est difficile, des fois, il y a des textes, des prophéties, tout ça, on ne comprend pas toujours, etc. Mais c'est intéressant de voir que Jésus a pris le temps, avec, je ne sais pas combien de temps ça a duré pour marcher, mais il a pris le temps de commencer par Moïse et de traverser toutes les Écritures. C'est ce que le texte dit, il a commencé par Moïse, commençant par, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Ils ont fait un voyage à travers tout l'Ancien Testament, probablement, depuis la Genèse, parce que c'est Moïse qui écrit la Genèse, jusqu'à Malachie, je suppose. Hein. On peut se demander qu'est-ce que Jésus a dû raconter, où est-ce qu'il a dû trouver des choses qui le concernent de manière... On ne sait pas, le texte ne le dit pas, mais le texte dit que tout l'Ancien Testament parle de Christ. Et on a d'autres passages qui le disent. Acte 10, 43, regardez Acte 10, 43. Acte 10, 43. Si quelqu'un Acte 10, 43, vous lisez. Hein, Acte 10, verset 43. Comme ça, on ira un peu plus vite. Je le lis. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péché. Mais qui c'est qui dit ça? Tous les prophètes disent que celui qui croit en Jésus, donc il faut chercher des fois dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on pourrait trouver ça, mais il dit ici que c'est une parole qui est annoncée aussi par les prophètes. Acte 13, verset 33, deux pages plus loin, Acte 13, verset 33, c'est l'apôtre Paul, je crois, qui prêche ici à Antioche, et il dit « Dieu a accompli pour nous, leurs enfants, la promesse en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, le deuxième psaume. » Donc ici, voilà ce qu'il dit, ça vient du psaume 2 concernant Jésus-Christ, ici. Et on pourrait trouver et multiplier beaucoup les exemples. Hein. Jésus disait à des pharisiens qui discutaient avec lui, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, mais ce sont... » Elles, ces Écritures, qui font quoi? Qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc encore, on voit ici d'autres passages où il est question de Jésus dans toutes les Écritures. Et l'apôtre Paul, quand il prêchait, encore un exemple, hein, en Actes chapitre 18 et au verset 28, par exemple, il dit, c'était Apollos, je pense, plutôt, hein, je sais plus. Au verset 28, où il dit « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ. Hein. » Démontré par les Écritures. Mais quelles Écritures, ici, à l'époque d'Apollos? C'est l'Ancien Testament. Moïse et les prophètes et les psaumes. Et il dit qu'il démontre, c'était la base de leur démonstration. Donc ici, Jésus insiste là-dessus pour nous. Cela nous dit, attention, nous devons aimer, nous devons avoir foi dans tout ce que la parole dit. Pas seulement dans le Nouveau Testament, mais dans tout ce qui est écrit dans la Bible entière. Et donc c'est pour cela qu'il faut lire la Bible entière, qu'il faut méditer la Bible entière, qu'il faut rechercher même, je crois, hein, Christ à travers les Écritures. Parce que Jésus dit, vous le sondez, mais ça parle de moi. Donc, en fait, cela sous-entend que lorsqu'on lit, on devrait pouvoir trouver Christ dans l'ensemble de l'Écriture. Alors, ça demande parfois des efforts, mais c'est ça que cela suggère. Donc, besoin de quoi dans tout ce que l'Écriture dit. Mais une autre chose que l'on voit aussi avec... Dans ce passage avec Jésus et les personnes qu'il rencontre, les disciples qu'il rencontre, c'est qu'il y a un besoin d'une bonne compréhension de l'Écriture. Jésus pose le constat que ces hommes sont lents à croire tout ce que l'Écriture dit, mais il prend le temps de leur expliquer. Au verset 20, je reviens encore au verset 27, il dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture. Un peu plus tard, ces hommes disent au verset 32, il nous expliquait les Écritures. Et au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, il fait quelque chose pour qu'ils puissent saisir le sens des Écritures. Donc, il se fait, on pourrait dire, il se fait connaître aux disciples à travers l'Écriture en leur expliquant ce qu'il y a dans les Écritures. Ces hommes parlaient et discutaient d'événements qui concernaient Jésus-Christ. Hein. Pendant tout le chemin, il se passait la mort, la crucifixion, ce que les souverains sacrificateurs ont fait, la résurrection, peut-être ce que les anges ont dit. Donc, il y avait des choses, des événements qu'ils racontaient concernant Jésus. Ils pouvaient, au verset 19, ils parlaient et ils discutaient. Ainsi, un verset 19, regardez, il dit... Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. Et verset 18, je crois que Jésus leur pose la question, de quoi discutez-vous en chemin? Et le sens, c'est sur quoi êtes-vous en train de spéculer, quoi? On parle sur des choses et sur d'autres. Donc on peut s'interroger sur des choses, parler sur des choses, mais pas forcément avoir une compréhension des choses. Et concernant Jésus, c'est possible aussi. Hein, on peut parler de beaucoup d'événements de la Bible, que la Bible raconte sur Jésus, sa mort, sa résurrection, toutes ces choses, des choses qui sont dans l'Ancien Testament, mais on a besoin que ces choses soient mises ensemble pour qu'on puisse les saisir et pour qu'on puisse les comprendre. Et c'est ce que Jésus fait avec ces personnes-là. Cette tristesse qu'ils avaient, parce qu'ils expriment leur désespoir, il dit « Nous espérions, verset 21, que ce serait eux qui délivreraient Israël. » Donc, ils sont dans une espèce de mélancolie, de désespoir, de tristesse. Et cette tristesse est causée par une absence de compréhension de ce qui concerne Jésus. Ils avaient les textes, mais ils n'avaient pas compris ce qui concernait Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa grâce, vient et il leur explique les Écritures. Il donne la signification, il l'interprète pour donner le sens afin qu'ils le saisissent. Vous vous rappelez quelqu'un qui fait ça dans l'Ancien Testament, c'était le scribe Esdras. La Bible dit qu'il expliquait, il lisait, et puis qu'il expliquait les Écritures pour en donner le sens. Et c'est ce que Jésus fait ici avec ses disciples. Et c'est ce que l'on doit toujours faire face à l'Écriture, parce que ça n'est pas toujours évident. Vous avez un exemple en Actes chapitre 8, avec l'eunuque éthiopien qui revient de Jérusalem, il s'est acheté un rouleau du prophète Ésaïe, il est en train de lire, la Bible nous dit dans Actes 8, et puis il tombe sur un passage où le texte, donc Actes chapitre 8, on peut regarder ça, un passage où il dit au verset... Acte chapitre 8, et au verset 32, il dit que le passage de l'Écriture qu'il lisait était « Il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau muet devant ceux qui le tont. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? » Mais avant qu'il dise ça, regardez ce que, au verset 30, Philippe dit à l'eunuque. Il va vers l'eunuque et il entend l'eunuque qui lit le prophète Ésaïe. Et au verset 30, il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ça veut dire qu'il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. Et Dieu veut que l'on comprenne. Jésus veut que ses disciples comprennent. Il ne veut pas simplement qu'ils voient qu'il est ressuscité. Il veut qu'ils comprennent, qu'ils installent ça dans la fresque de la révélation, dans tout ce qu'il a dit, qu'ils puissent positionner les choses et qu'ils comprennent ce qu'il a enseigné. Et Philippe dit, comprends-tu? Et l'eunuque dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ou si quelqu'un ne m'explique? Et donc, je crois que Jésus montre vraiment qu'on a besoin toujours d'une bonne compréhension. On a besoin de bien comprendre, mais on a besoin aussi, parfois, quand on parle aux autres, de bien expliquer les Écritures. Et c'est vrai qu'on peut parfois donner une Bible à quelqu'un, on dit, tiens, voilà une Bible, tu lis et puis tu vas voir. Oui, le Seigneur peut faire des choses, mais Dieu veut qu'il y ait. Dieu ne dit pas. Il avait acheté un rouleau, hein. Ça coûtait cher, hein. Et Dieu ne l'a pas laissé avec son rouleau tout seul. Dieu dit à Philippe, tu laisses la Samarie dans laquelle tu es, tu vas dans le désert, tu cours et tu rattrapes cet homme. Et puis, voilà. Et quand il arrive là-bas, il entend, et puis Philippe lui pose des questions, et après, eh bien, il est obligé d'expliquer. Regardez ce que Philippe fait, verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, ça fait penser à Jésus, hein, commençant par Moïse un peu, commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il va lui expliquer la parole. Il parle du prophète Ésaïe. Il dit, il commence par là parce que c'est là qu'il est. Mais on a l'impression qu'il va, il va mettre les choses en place pour pouvoir lui expliquer qui est cet homme dont parle le prophète Ésaïe. Et il prend le temps d'expliquer scripturairement ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus n'apporte pas de nouvelles révélations à ces hommes. Ça, c'est important de le voir. Mais il utilise la révélation qu'ils ont déjà, l'Écriture, il leur explique cette Écriture. On pourrait dire qu'il vient avec, il dit de nouvelles choses. Parfois, on a la démangeaison des choses nouvelles. Il vient avec, c'est pas encore écrit, mais moi, je vous le dis. Après tout, il est la parole, hein. Non, mais il se soumet à ce qui a été écrit. Il explique ce qui a été révélé déjà. Il leur montre comment tout ce qui a été dit mène à lui, comment il est, comment lui qui est cet homme crucifié, tout ce qui a été dit mène à lui, comment les prophètes ont parlé de lui, comment l'agneau pascal c'est lui, comment les sacrifices du Lévitique c'est lui, comment la nécessité d'un substitut qui est montré dans les Lévitiques, eh bien ça le concerne, comment le roi David, eh bien c'est un type du vrai roi, du roi des rois qui doit venir. Toutes ces choses-là, il explique à travers les Écritures. Et la Bible dit que quand il fait ça, leur cœur devient brûlant. Et puis, troisième chose que je veux dire aussi, c'est que ce que Jésus fait montre aussi le besoin d'une action de Dieu, d'une action divine pour comprendre la parole. Au verset 32, il est dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. » Et le verbe qui est traduit ici par expliquer, c'est le même qui est traduit au verset 45. Regardez dans Luc 24 et au verset 45, quand il est dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Expliquer les Écritures et ouvrir l'esprit. C'est le même verbe qui est utilisé ici. Et les deux indiquent ce que Jésus a fait et qu'il fallait qu'il fasse ces choses pour que ces hommes comprennent quelque chose. Donc il s'agit d'une action du Seigneur Jésus-Christ pour ouvrir l'Écriture afin qu'elle soit rendue compréhensible. On a d'autres exemples comme ça dans la Bible. Vous vous souvenez de Lydie, hein, dans Actes chapitre 16, quoi, hein, dans Lydie, pour Lydie, où il est dit qu'elle écoutait l'apôtre Paul, mais que Dieu a fait quoi? Il lui a ouvert le cœur afin qu'elle soit plus attentive encore à ce que l'apôtre Paul enseignait. Et ici, on voit que Jésus ouvre l'esprit de ses disciples. Il explique, il ouvre aussi l'esprit des deux disciples d'Emmaüs. Et il faut qu'il le fasse, sinon ils ne comprennent pas. Et ce qui le montre, c'est que Jésus avait déjà dit ces choses à ses disciples. Verset 44, regardez, il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans les Écritures, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je vous ai déjà dit ça. Je vous l'ai dit. Okay? » Et si vous lisez Luc chapitre 18, je vous lis, hein, Luc chapitre 18, verset 31-34, il dit, « Jésus prit les douze avec lui, et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il a dû leur dire des choses comme ça. Car il sera livré aux païens, et on se moquera de lui, on l'outragera, On lui crachera au visage, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir le troisième jour, et il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Le texte dit, ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Malgré que Jésus leur a dit. Et Jésus revient après la résurrection, et il accomplit une action divine pour leur ouvrir l'esprit, afin qu'ils comprennent. Et donc, pour comprendre l'Écriture, il faut une action de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose qui naît de notre esprit. On est très intelligent, donc on comprend. Ce n'est pas vrai. Il faut que Dieu agisse dans le cœur, qu'il ouvre le cœur et qu'il ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. La parole de Dieu dit, quelque part dans 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14, il dit « Nous parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Et au verset 14, il dit « Mais l'homme animal, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et donc, la compréhension des Écritures passe toujours par l'ouverture de l'Écriture par Dieu, par l'action de Dieu sur le cœur, sur l'intelligence, sur l'homme, pour qu'il puisse saisir la parole. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, touche, Seigneur, ouvre ses yeux, pour qu'il voit un peu comme Élisée avait prié pour son serviteur Géasi, ouvre ses yeux pour qu'il voit tout ce qu'il y a. Et nous devons prier pareil. Ouvre mes propres yeux quand on s'approche de la parole de Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous voyons. Illumine nos yeux, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre entendement afin que vous voyez les choses. Si Dieu ne le fait pas, on ne peut pas voir les choses parce que ce sont des choses spirituelles. On a besoin qu'il le fasse pour nous, qu'il nous donne son esprit, qu'il nous éclaire par son esprit. Et je crois que ce texte qui parle de la rencontre de Jésus avec ces hommes montre que c'était nécessaire qu'il les rencontre pour qu'ils agissent pour eux. Et nous, ça nous donne la nécessité de prier quand nous nous approchons de la parole de Dieu pour qu'il nous ouvre aussi les yeux afin que nous comprenions. Ou quand nous annoncions l'évangile à quelqu'un d'autre, qu'il ouvre les yeux pour que la personne saisisse sa parole. Nos arguments peuvent être très beaux, très bons, très solides, mais ce n'est pas pour cela que les gens se tournent vers Christ. C'est quand Dieu touche, quand il ouvre. L'apôtre Paul, quand il priait, il disait priez pour que Dieu fasse quoi ? Il ouvre une porte pour que nous puissions annoncer l'évangile. Il ne dit pas priez pour que je sois hyper bien expliqué, expliquant des choses, etc. Il dit non, priez pour que Dieu intervienne et qu'il ouvre une porte afin que nous puissions annoncer l'évangile. Et notre texte montre ici que Jésus, il est venu accomplir cela dans le cœur de ses propres disciples, les toucher, ouvrir leurs yeux pour qu'ils saisissent les choses qui viennent de lui. Donc le besoin, je résume, de croire dans toute la parole de Dieu, le besoin de comprendre, donc de nous exposer à l'explication, mais de pouvoir aussi expliquer, de chercher quand on témoigne, d'expliquer avec la grâce de Dieu la parole pour que les personnes comprennent, mais aussi la nécessité de prier pour que le Seigneur ouvre l'esprit, qu'il ouvre le cœur à la compréhension de sa parole et qu'il rende sa parole accessible au cœur. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Christ pour comprendre les choses de l'Esprit de Christ. Voilà, je m'arrête là. Que ça nous encourage, en tout cas, lorsque nous nous approchons de l'Écriture, le désir de lire tout, le désir d'approfondir dans la compréhension et aussi le désir de l'aide du Seigneur dans cette compréhension pour qu'il ouvre notre intelligence et notre esprit. Nous allons prendre quelques sujets de prière.